Ce message vous est présenté par le site adoredieu.com.
Je vais t'adorer pour l'éternité. Pour l'éternité, je vais t'adorer.
Ce matin, je vais même parler d'un verset, d'un passage, d'une parabole tellement connue, mais j'aimerais qu'on puisse le voir ensemble. C'est la parabole du semeur. Et j'aimerais qu'on prenne tout de suite dans Actes chapitre 1, verset 8. Actes chapitre 1, verset 8. « Mais vous recevrez une puissance. » Amen. « Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Reims, à Béthanie. » Mais aussi dans la France, dans la francophonie et dans le monde entier. Amen. Vous serez mes témoins. Qui ce matin a reçu la puissance du Saint-Esprit? Vous savez pourquoi le Saint-Esprit est descendu un jour sur vous? C'est pour que vous soyez ses témoins. Voilà le rôle du Saint-Esprit, c'est de faire de nous des témoins de l'Évangile, des témoins de la puissance de Jésus-Christ, des témoins de l'amour de Jésus-Christ, des témoins de la puissance de l'œuvre de la croix. C'est cela pourquoi le Saint-Esprit un jour est descendu sur nous avec force et puissance. C'est pour faire de nous, faire de toi, faire de cette église, une église qui représente le royaume de Jésus-Christ. Prenons ensemble Matthieu chapitre 13. On va prendre au verset 1. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Déjà, ces premières phrases sont intéressantes. Jésus, un jour, se dit, je vais aller me balader. Je vais aller prendre l'air. Ça vous est déjà arrivé de dire, je vais sortir un peu, me balader, prendre du temps pour moi. Prendre, pourquoi pas aller au shopping, faire du shopping ce jour-là, sortir de la maison. Je vais me changer les idées. Et Jésus, ce jour-là, se dit la même chose. Il dit, je vais sortir un petit coup. On a fait une grande campagne d'évangélisation hier, je suis fatigué, j'ai besoin de me retrouver un petit peu. Et il décide tout simplement de sortir. Et comme il y avait la mer à côté de chez lui, il se dit, pourquoi pas aller m'asseoir au bord de la mer? Pour ceux qui ont la mer à côté d'eux, ou qui ont eu peut-être, c'est agréable, n'est-ce pas, de venir s'asseoir au bord de la mer et de profiter de la nature. Mais Jésus aussi aimait ce moment-là. Et il va au bord de la mer, tranquille, s'installer, prendre un temps personnel pour lui, se reposer. Et tout d'un coup, qu'est-ce qui se passe? Une grande foule se met autour de lui. Et là, Jésus a tellement dit, j'étais parti pour me reposer, prendre un temps avec moi. Mais une grande foule l'a suivi. Une grande foule a suivi cet homme, a suivi Jésus-Christ. Et cette grande foule s'est mis autour de lui. À tel point, lui qui était assis tranquillement au bord de la mer, à tel point qu'il a dû monter dans une barque parce qu'il y avait tellement de monde qu'il a failli tomber dans l'eau. Tellement les gens le pressaient, le poussaient. Ils voulaient approcher Jésus. Ils voulaient toucher Jésus. Ils voulaient voir Jésus de leurs propres yeux. Ils étaient attirés par la personne même de Jésus. À tel point que Jésus a dit, bon, laissez-moi monter dans la barque, parce que je vais finir par couler là, à force de me pousser. Mais Jésus s'est rendu disponible pour ces gens. Il a réussi et il a changé son programme. Je vais te demander ce matin, combien de fois es-tu prêt à changer ton programme? Le programme que tu as voulu faire pour ta propre personne. Et quand tu es confronté aux besoins du monde, aux besoins de ceux qui t'entourent, tu dis finalement, je vais peut-être laisser mes loisirs, laisser peut-être ce que j'avais prévu pour aller m'occuper de ceux qui ont besoin. C'est ce que Jésus a fait. Il a vu cette foule. Et combien de fois il nous a dit dans la parole que quand Jésus a vu cette foule, parfois même il fut ému de compassion. Et même parfois il pleura en regardant cette foule. Parce qu'il aimait cette foule plus que lui-même. Parce qu'il voyait plus d'intérêt à s'occuper de cette foule qu'à s'occuper de lui-même. Il avait plus de compassion pour ces gens que pour diriger sa propre vie. Et Jésus donc monte dans la barque et toute la foule se tenait sur le rivage. Je vais vous dire une chose. Si vous choisissez de vous rendre disponible pour Dieu, vous verrez qu'une grande foule et des gens viendront se mettre aux côtés de vous. Je vous assure. Si dans votre cœur vous êtes prêt et disponible à dire, je suis prêt à changer mon programme si jamais. Je vous assure que Dieu ne perdra pas l'occasion de mettre des gens à côté de vous. Si le cœur est disposé, vous recevrez cette puissance survenant sur vous. C'est une puissance qui vous envahit et qui fait de vous ce témoin. Alors toute la foule se tient sur le rivage et il leur parla en parabole sur beaucoup de choses. Et il leur dit, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Alors, cette semence, est-ce que vous pouvez dire, le semeur, il n'est pas vraiment compétent. Pourquoi il met de la semence sur le chemin? Il ne peut pas attendre d'être là où il faut semer pour mettre la bonne graine au bon endroit? Alors, j'ai une petite explication à cela. C'est qu'à l'époque, les chemins les chemins de campagne, les chemins où les gens marchaient et les champs qu'on cultivait étaient tellement proches qu'on ne voyait pas trop la différence. Donc en fait, il était sur son chemin, sur le chemin, je dirais, commun où tout le monde marchait, mais c'était aussi le chemin de la semence. Donc il semait. Et il y en a qui tombaient sur le chemin et d'autres qui tombaient sur le champ à cultiver. Mais c'était tellement proche qu'il préférait en mettre de partout. Et puis donc, cette première semence tombe sur ce chemin, le long du chemin. Et si vous lisez avec moi au verset 18, Jésus explique ce que cela veut dire. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne la comprend pas, le malin vient et enlève ce qui a été semé dans son cœur. Cet homme est celui qui a reçu la semence le long du chemin. J'aimerais vous rappeler une chose, c'est que l'ennemi sait que son temps est compté. Et chaque semence qui tombe, même le long du chemin, s'il peut l'enlever, il l'enlèvera. L'ennemi est un voleur. La Bible nous dit qu'il est là pour venir voler, tuer, égorger. Et nous voyons ce qu'il est en train de faire. Et il fait du bon boulot. Vous êtes d'accord avec moi? L'ennemi fait du très bon boulot. Très très bon. Ne sous-estimons pas la force de l'ennemi. Et l'ennemi, quand cette semence, c'est-à-dire que quand quelqu'un entend la parole de Dieu, comme vous ce matin, et qu'il laisse cette semence tomber dans son cœur, mais qu'il n'accepte pas de croire cette parole, alors cette parole n'aura aucun effet. Parce que l'ennemi viendra dérober, voler, viendra te retirer cette semence et tu ne pourras jamais jouir du fruit de cette semence parce que ta foi n'a pas été mise en action. Ce matin, j'aimerais que vous puissiez et j'aimerais stimuler un petit peu votre foi. Mettez votre foi en action. Sinon, André et les autres qui prêchent ici auront beau prêcher semaine après semaine, mois après mois, année après année. Et les beaux messages qu'ils pourront vous prêcher, peut-être vous faire du bien sur le moment, peut-être des petits frissons parce qu'il y a des histoires émouvantes. Mais au fond de votre cœur, est-ce qu'il y a cette terre qui va porter du fruit? Est-ce que quand la parole de Dieu est prêchée, vous dites, oui, ça je le crois et je le prends pour moi. Même si ta raison te dit, non. Ce n'est pas vrai. Dernièrement, à l'église, nous avons eu un homme qui est passé, qui s'appelle David Hogan. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. On a eu une conférence avec lui la semaine dernière, ou il y a deux semaines, je ne sais plus. Et cet homme, plusieurs fois, j'ai dû dire à ma raison, tais-toi et crois ce qu'il est en train de dire. Parce que cet homme, il a 34 ans alors qu'il avait 24 ans. Dieu l'a appelé à travailler dans les montagnes du Mexique. Dans les montagnes du Mexique. Et à 24 ans, il est parti avec son sac à dos. Commencer à aller chercher les petits Indiens qui étaient dans les tribus encore non atteintes par l'évangile. Et il est allé. Il a commencé à voir des miracles. Il a commencé à voir des prodiges. Il a commencé à nous raconter certaines de ses histoires. Et il a vu plus de 450 résurrections. Et il racontait toutes sortes de témoignages. Toutes sortes de témoignages, des bras qui se sont remis, qui étaient coupés, des bras qui se sont restaurés, les morts ressuscités, sa petite fille qui était morte devant lui. Il a prié, il est resté, etc. Toutes sortes de témoignages. Et au bout d'un moment, ta raison revient et dit, mais est-ce que vraiment c'est vrai tout ça? Et puis, il est dans ces montagnes, personne ne peut vérifier. Je dis, sauf qu'aujourd'hui, 700 églises ont été implantées dans ces montagnes. 500 pasteurs sont en activité. Plus de 200 000 personnes sont venues à Christ. Et 100 000 aujourd'hui forment les églises dans ces montagnes. Mais j'aimerais vous dire que la parole de Dieu challengera toujours votre intelligence. Et tu feras confiance soit à ta raison, soit tu mettras ta confiance en Dieu et tu laisseras ta foi être, je dirais, mise en action. Nous avons besoin de mettre notre foi en action, sinon la parole de Dieu ne sert à rien. Alors cette semence tombe le long du chemin. Le semeur sème, cette semence tombe. Et malheureusement, parce que l'homme entend, mais ne met pas sa foi en action, alors l'ennemi vient dérober. Vient dérober. La deuxième chose, cette semence qui tombe dans les endroits pierreux, où il n'y avait pas beaucoup de terre, elle leva aussitôt, parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha faute de racines. Et Jésus explique cela au verset 20. Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Alors cette semence, vous savez, il y a des gens qui reçoivent la parole de Dieu parce que c'est une bonne nouvelle, la parole de Dieu. N'est-ce pas? La Bible nous parle de choses belles, des miracles, des prodiges, qu'on peut rencontrer un Dieu d'amour qui peut nous guérir. Et les gens parfois accueillent cette bonne nouvelle avec joie et disent, ouh, c'est super! C'est génial! Et les gens sont touchés dans leurs émotions, sont touchés dans leur cœur, disent, waouh, ouais, c'est super, merci, alléluia! Mais quand parfois vient l'ennemi, quand viennent les difficultés, quand viennent les épreuves, ces gens manquent de racines. Leur intimité avec Dieu n'est pas fondée. Leur intimité personnelle avec Christ n'est pas fondée, n'est pas, je dirais, enracinée. Et ce qui va te permettre de traverser les plus grandes épreuves, c'est ton intimité personnelle avec Dieu. Jésus a pu traverser la plus grande difficulté, l'œuvre de la croix, le jardin du Gethsémané. Pourquoi? Parce qu'il avait cette intimité avec Christ, avec Dieu. Quand il se retrouve seul dans le jardin du Gethsémané, tout seul avec son Père, il veut prendre ce moment important. Et combien de fois, nous, quand les épreuves viennent, nous prenons de l'intimité avec Dieu? Quel est notre premier réflexe? D'aller se plaindre au pasteur André et dire, pasteur André, ça va pas. Ou d'appeler un ami et de pleurer au téléphone, ça va pas. C'est bien. Mais le plus important, c'est de venir dans le secret et de venir chercher celui qui résoudra tes problèmes. C'est la racine. La racine d'une vie réussie en Christ, c'est de le connaître personnellement. Faute de racine, cette semence va sécher. Cette semence va disparaître. Ensuite, une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Qu'est-ce que cela veut dire? Au verset 22. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. C'est ceux qui n'arrivent pas à faire le choix. Ceux qui restent encore un pied avec Christ et un pied dans le monde. Ceux qui n'arrivent pas à faire, à couper les choses de ce monde. Ceux qui se laissent encore attirer, séduire par les richesses de ce monde. Je vais vous dire une chose. Est-ce qu'il n'a pas dit à moi l'or et l'argent? Est-ce qu'il n'a pas dit celui qui se confie en moi ne manquera jamais de rien du tout? Mais encore une fois, il faut avoir cette foi dans la parole de Dieu. Et est-ce que ce que Dieu dit, nous pouvons le remettre en question ce matin? Dire, mais est-ce que vraiment il va le faire? Oui, il va le faire. Mais il faut que tu le crois ce matin. Il faut que tu choisisses de vivre sans compromis dans ta vie. Tu dis, non, ma vie, c'est Christ. Christ est en moi. Je me refuse de me laisser séduire par les richesses de ce monde. Je me refuse de me laisser attirer par le succès de ce monde, la gloire de ce monde. Mais la seule chose que je veux, c'est la gloire de Christ dans ma vie. Et cela que je désire le plus au monde, c'est que Jésus se manifeste, la personnalité de Jésus se manifeste jour après jour. La gloire de Jésus puisse se refléter sur ma vie. Que mon visage, que mes yeux pétillent de la vie de Christ. Que mon sourire montre la joie de Christ. Que mes mains servent à consoler ceux qui sont dans la difficulté. Il faut vivre sans compromis. Vous savez, il y a un homme qui m'a beaucoup marqué. Keith Green. Vous n'avez jamais entendu parler. Un chanteur, un musicien qui est mort à 28 ans dans un crash d'avion. Il avait écrit un livre sans compromis. Vous chantez certainement beaucoup de ses chants sans même savoir qui il est, Keith Green. Il est mort à 28 ans et tout le monde a dit, mais pourquoi il est parti si tôt? Pourquoi? Mais aujourd'hui, il a encore de l'influence. Aujourd'hui, ce qu'il a semé porte encore du fruit. Et beaucoup de musiciens, aujourd'hui, et des grands musiciens chrétiens sont sous l'influence de Keith Green. Pourquoi? Parce qu'il a toujours vécu sans compromis. Au partir du moment où il a rencontré Jésus-Christ, pour lui, c'était vraiment, les choses anciennes sont passées, mais toutes choses deviennent nouvelles avec Christ. Jamais je ne retournerai là-bas. Jamais. Mais mon objectif, c'est de suivre Christ. Parce que la Bible dit, tu ne peux pas servir deux maîtres. Tu n'en sers un seul, qu'un seul. Alors servons le bon ensemble. Unissons-nous autour de Jésus-Christ. Avançons ensemble pour la même cause. Au risque que quoi? Que cette semence. Est-ce que j'aimerais vous dire, c'est pas la faute du semeur. C'est pas la faute de la semence. La semence est la même pour tout le monde. La graine qu'il lance est la même pour tout le monde. Mais c'est celui qui la reçoit qui fait la différence. Et le message de l'évangile est le même pour tout le monde. Mais ceux qui font des grands exploits, c'est ceux qui croient dans cette parole. Parce qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Amen. Et Dieu ne change pas sa parole pour telle ou telle personne. Elle reste la même et elle restera la même pour l'éternité. Mais ce qui fait la différence, c'est toi et moi. Dire, je me saisis de cette parole et je la prends pour moi. Et je veux que cette parole, elle porte du fruit dans ma vie. Je veux absolument porter du fruit avec cette parole. Je refuse que l'ennemi vienne dérober ce que Dieu m'a donné, ce que Dieu m'a confié. Il m'a dit que j'étais guéri, alors je suis guéri. Il m'a dit que j'étais délivré, alors je suis délivré. Il m'a dit que j'étais sauvé, alors je suis sauvé. Vous savez, un jour, quelqu'un m'a dit, et j'ai trouvé ça vraiment superbe. Si l'ennemi vient te rappeler ton passé, vous savez, il aime bien faire ça. L'ennemi vient et te rappelle, il dit, mais attends, tu peux pas lever tes mains, louer le Seigneur. Et regarde, ne serait-ce qu'il y a deux jours, regarde ce que tu as fait. Et là, on dit, c'est vrai. Et finalement, on baisse les mains et on commence à s'apitoyer sur son sort. Alors, si l'ennemi revient maintenant te dire, regarde, souviens-toi de telle situation, dis-lui, ok, mais toi, rappelle-toi de ton futur. Dis-lui, rappelle-toi de ton futur. Peut-être effectivement j'ai mal fait. Mais je suis pardonné. Je suis sauvé. Christ est en moi. Et toi, ça n'existera plus jamais pour toi. Et ton heure arrive, la fin pour toi arrive. Mais pour moi, ce n'est que le début. Amen. Moi, j'ai toute l'éternité à passer avec mon Dieu. Toi, c'est terminé. Alléluia. Alors, laissons pas les épines, les ronces de ce monde. Parce que ce monde ne procure que des ronces et des épines, rien de bon. Nous étouffer. Quand on étouffe quelqu'un, ça se fait, je dirais, lentement. Et le but de ce monde, ce n'est pas de te tuer tout de suite comme ça. C'est de faire croire que ce monde est meilleur. Et commence à t'entourer et t'étouffer progressivement. Mais si tu restes proche de Jésus-Christ et ancré en Jésus-Christ, ces ronces n'auront pas d'effet. Ces ronces ne pourront pas t'atteindre. La dernière semence, la semence de la bonne terre. Amen. On finit en beauté. Une autre partie tomba dans la bonne terre et elle donna du fruit. Un grain 100, un autre 60, un autre 30. Que celui qui a des oreilles ce matin pour entendre, entende. Dis à la personne à côté de toi, entends ce matin. Entends ce que dit Dieu ce matin pour toi. Écoute bien, ouvre tes oreilles ce matin. Car la bonne terre donne du bon fruit, elle en donne même beaucoup. Beaucoup. Vous savez que un petit grain de sénévé, c'est un grain minuscule. C'est minuscule un grain de sénévé. Mais planté dans une bonne terre, ça donne naissance à un arbre de la taille d'un homme. Alors, si c'est de la taille d'André, ce sera. Si c'est de la taille de Laurent, ce sera. Mais ça donne la taille d'un homme qui porte des milliers de fruits et qui est un refuge pour les oiseaux du ciel. Un tout petit grain de sénévé porte des milliers de fruits. Le grain qui tombe dans une bonne terre. Est-ce que ce matin tu peux dire, je suis cette bonne terre? Ou j'ai envie d'être cette bonne terre? Peut-être j'ai été incrédule bien des fois. Peut-être j'ai douté bien des fois sur la parole de Dieu. Mais ce matin je veux être une bonne terre. Je choisis d'être une bonne terre. Je veux être réceptif à la semence que Dieu me donne. Alors ce matin, je vais m'arrêter sur ces quatre terres. Parce que c'est pas là le thème de mon message. C'est la parabole du semeur. C'est du semeur que je veux parler ce matin. Je voulais juste faire un petit rappel sur les quatre terres. Il est important d'être une bonne terre. Mais ce matin, j'aimerais parler de quatre points du semeur. C'est pas la parabole des quatre terres. C'est la parabole du semeur. J'aimerais voir un premier point avec vous. Le premier point, c'est que le semeur sortit. Tu dis, bah oui, c'est normal. Il va pas semer dans sa maison, dans sa cuisine. Il va pas balancer les graines dans l'évier. Ça paraît logique. Vous recevrez une puissance et vous serez mes témoins. Tes meubles ont assez entendu l'évangile, maintenant il faut sortir de ta maison. Un semeur sorti, et nous sommes tous et toutes des semeurs ce matin. Il faut que tu comprennes une chose, c'est que tu es un semeur, un témoin est un semeur. Un témoin parle, un semeur donne, sème. Et il faut que tu sortes, sortes de quoi? Sortes de cette idée que les gens vont venir à Christ comme ça, du jour au lendemain. Sortent dans cette conception que, oh ben de toute façon, si Dieu les aime, Dieu les emmènera à lui. Oui, mais Dieu t'aime tellement aussi qu'il t'a choisi toi pour le servir. Et il a dit, vous serez mes témoins. C'est vous que j'ai choisi. C'est toi, c'est toi. C'est tout le monde ici réuni, il a dit, vous êtes mes témoins. Petits, grands, enfants. Tous sont les témoins. Je me souviens de mon petit frère à l'école maternelle. Pierre. Un jour, mon père est convoqué et dit, Monsieur Marvin, il faudrait qu'on discute. T'as bon? Votre garçon prie pour les autres enfants. Oui, quand ils tombent et qu'ils ont un bobo, ils prient pour eux. Alors, il a fallu... Vous savez, c'est difficile. On enseigne des choses aux enfants, et puis quand ils le mettent en pratique, il faut leur dire, finalement, faut faire autrement. Alors bon, il a fallu dire à Pierre, écoute, c'est très bien ce que tu fais. On croit que c'est très bien. Mais à l'école, tu sais, ils sont pas tout à fait d'accord avec cela. Et, peu de temps après, mon père a été de nouveau convoqué. Monsieur Marvin, il faut dire à votre fils qu'il ne peut pas prier comme ça avec les enfants. Et peu de temps après, il y a eu une convocation de la maîtresse, une lettre de la maîtresse, pour aller voir un film sur une sorcière. Mon père a dit, vous voyez, mon fils n'ira pas là-bas. Vous vous permettez des choses dans cette école, d'inculquer des notions de sorcellerie à ses enfants, et quand mon fils prie pour quelqu'un à l'école, on lui refuse. Moi, je refuse qu'il aille voir ce film. Et bref, ses enfants s'aiment, comme ils le peuvent, avec le peu qu'ils ont. Une petite graine peut porter beaucoup de fruits. Alors le semeur sort. Et je vais vous dire, il faut sortir. Et vous avez un pasteur qui aime sortir, qui aime parler de l'évangile, qui aime semer. Et je crois que s'il est comme ça, vous serez comme ça aussi. Parce que les chiens ne font pas des chats. Et si vous vous laissez instruire, et vous saisissez le cœur qu'il a, vous aurez aussi ce cœur. Vous savez, chaque ministère, chaque homme de Dieu a sa particularité, son ministère. Je ne me considère pas comme un évangéliste, mais je sais que je suis un semeur. Et il n'y a pas besoin d'être un évangéliste pour être un semeur. Je suis un semeur. Et je sème par ma musique, je sème par mes mots, je sème par quand je prêche la parole, mais je ne me considère pas comme quelqu'un qui a un ministère d'évangéliste. Et qui d'entre nous peut dire, j'ai un ministère d'évangéliste? Et puis j'ai envie de te dire, ben c'est bien, mais on s'en fout. Tout le monde est appelé à être un semeur. C'est bien pour toi, et que le Seigneur te bénisse, on en a besoin, et je t'encourage. Mais les autres, ne nous réfugions pas derrière ceux qui se disent évangélistes. Mais nous aussi assumons, comme ce semeur qui ose sortir, je vais aller semer. Jésus a fait quoi? Il est sorti, et la foule est venue. Tant que tu restes chez toi, tranquillement, dans ta petite zone de confort, dans ce que tu sais faire, dans ta petite foi chrétienne, personne ne te suivra. Mais au moment où tu vas commencer à sortir, à commencer à mettre ta foi en action, tout ce que tu as entendu depuis des années, peut-être des décennies pour certains ici, quand tu vas commencer à mettre ne serait-ce qu'un pas devant, un pas de foi, tu verras que des gens viendront autour de toi. Tu le verras. Tu verras. Le semeur sort. Il ne sait pas si toutes les graines qu'il lance, si chacune d'elles va porter du fruit. Mais peu importe, il sème. Et il sème partout. Partout. Paul dira, dans les moments favorables ou non, je sème. Je prêche la parole de Dieu. Je sème. Je sème. Je sème. Je sème. Parce que la semence que j'ai, elle est la même pour tout le monde. Alors je sème. Et puis après, mon rôle, c'est de prier pour que cette semence porte du fruit. Je ne peux pas changer la semence, la faire devenir un grand arbre. Seul Dieu est capable de faire ça. Alors ne cherchons pas à changer les rôles. Nous ne pouvons sauver personne. Mais ce que nous pouvons faire, parce que nous avons reçu la puissance du Saint-Esprit, c'est semer et être des témoins. Ça, nous pouvons et nous devons le faire. Sinon, le Saint-Esprit n'a aucun rôle dans notre vie. Quoi? C'est juste pour prier en langue le dimanche matin. Vous croyez que le Saint-Esprit se limite à ça? Un korabali balakara, tout le monde peut faire ça. Hein. Honnêtement, tout le monde le dimanche matin peut même quelqu'un qui n'est pas baptisé dans le Saint-Esprit peut l'inventer, honnêtement. Je le crois. En tout cas, avec Kubariba, là, je l'écris, il le répète. C'est pas un problème. Mais la puissance du Saint-Esprit se manifeste quand nous annonçons la parole de Dieu. C'est cette puissance qui nous pousse. Quand Pierre a reçu le Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché et 3000 se sont convertis. Mais si 3000 se convertissent, c'est qu'ils étaient à côté de lui et c'est qu'il était sorti. Il n'a pas eu les 3000 comme ça, d'un coup, poup, ils n'ont pas eu. Non, c'est qu'il est sorti et les gens sont venus. Pourquoi? Parce qu'ils se disent, ouf, il y a quelque chose qui se passe ici. Et les gens de Béthnie et de Reims vont venir, comme on dit, il y a quelque chose qui se passe dans ce lieu. Il y a quelque chose qui se passe dans ces hommes, dans ces femmes qui viennent dans cette église, ces hommes qui connaissent Jésus. Il y a quelque chose dans leur vie. Il faut commencer à sortir. Ça ne veut pas dire forcément sortir dans toutes les... Non, là dans ton lieu de travail, là où tu es. Simplement être toi-même, refléter la nature de Jésus-Christ. Commencer à semer avec des petites paroles d'encouragement. C'est sûr que si le matin, le lundi matin, vous arrivez au boulot et vous faites une tête comme ça, qui, les dents qui touchent le parterre, et dire « J'en ai marre de ce boulot, j'en ai marre. » Ah oui, là, vous allez semer quelque chose, là. Ah ouais. Et si vous dites « Ah, super, une nouvelle semaine qui commence. » Là, je vous assure que les gens vont vous poser des questions. Je dis, mais attends, une nouvelle semaine, mais attends. Ouais, mais c'est ça, moi je suis content d'être au travail. Et puis, les contacts se font comme ça. Soyons naturels, reflétons la joie de Jésus-Christ, l'amour de Jésus. Jésus n'a jamais fait d'affiche partout pour dire, je suis là. Les gens le voyaient, ils le suivaient. Venez écouter mes prédications. Non, Jésus était lui-même, rempli du Saint-Esprit. Rempli de l'amour de Christ, de son Dieu, du Père. Le semeur sème parce qu'il sait que sa semence viendra tôt ou tard. Il le sait. Je vais vous raconter une histoire. Il y a bien des années, un homme qui était un évangéliste dans notre pays et qui voyait régulièrement des miracles de la puissance de Dieu. Comme disait André, pas des petites choses, mais des grands miracles. Des cancers être guéris, des paralytiques se lever, etc. Il voyait ce genre de choses. Et un jour, il finissait une campagne d'évangélisation, il restait une journée, une soirée, et puis il avait une grande liasse de tracts dans sa voiture, où il était à pied, je sais plus exactement. Il avait ça avec lui. Et puis il dit, bon, il était au milieu d'un champ, un peu comme... Vous êtes déjà allé chez Nico? Ouais. Là, il y a des champs, là. Là, c'est sûr, là, un peu comme ça. Et puis, il s'est dit, ouais, je vais pas rencontrer grand monde, là, sur le chemin. Il a pris ses tracts avec dernière soirée d'évangélisation. Si vous êtes malade, venez, vous serez guéri. Si Jésus guérit, libère. Vous savez, ces tracts qu'on a fait beaucoup. Et il a pris ses tracts comme ça. Il a jeté ses tracts. Il a dit, bon, Seigneur, maintenant, fais quelque chose avec ça. Moi, je peux rien faire avec ce bout de papier, mais toi, fais quelque chose. Et le paysan, qui était à côté un jour, donc le même jour, pas un jour, le même jour vient, et il voit dans le grillage, dans le barbelé de sa clôture, ce tract qui était donc, qui s'était encastré dedans. Il prend ce tract et il lit, soirée d'évangélisation, Jésus, etc., guéri. Et cet homme était malade. Cet homme a dit, pourquoi pas? Pourquoi pas j'irai à cette rencontre? Cet homme, le soir, part à cette rencontre. Ce soir-là, cet homme est guéri, transformé, sauvé, libéré. Il revient à la maison, il explique ce qui s'est passé. Sa famille vient à Jésus-Christ. Sa famille commence à témoigner, à être des témoins. Parce qu'ils ont reçu cette semence et eux-mêmes, à leur tour, ils veulent semer. Ils commencent à semer, à parler de Christ, à parler de l'amour de Christ. Et une de ses filles va parler à une de ses copines. Et sa copine aussi se tournera vers Christ. Et cette copine, c'était ma mère. Et cet homme qui avait lancé ses tracts, vous savez qui c'est? C'était Aldo Benzi. Waouh! Et aujourd'hui, je suis le fruit direct d'une semence du papa Benzi. Waouh! Mais le papa Benzi lui dira, mais peut-être lui se réjouit là-haut de voir cela. Mais quand il a lancé cela, jamais il aurait pensé que ça se suivrait comme ça sur des générations. Mais pourtant le fruit est là. Je vais vous dire une chose, le semeur sème. Partout où il va. il sème. Sur les terrains rocailleux, sur le chemin, dans les épines, dans les ronds, il sème, peu importe. Il sème. Et il dit maintenant, Dieu fera son travail. Dieu fera son travail. Quand je prépare ce message, ça m'a fait sourire cette histoire. J'ai pas eu l'occasion de rencontrer le papa Benzi, j'ai jamais vu, j'ai même jamais vu son visage, j'ai jamais vu une photo. Mais je sais que c'est parce que il a osé semer. Et je pense que d'autres auraient des témoignages comme ça à raconter au sujet du papa Benzi, mais aujourd'hui je suis là parce qu'il a juste lancé quoi? Un paquet de feuilles, de tracts. Et ça a fait son chemin. Porter des milliers de fruits. C'est ce que Dieu veut faire avec toi. Le semeur, sorti pour semer. Il faut que j'avance. Comme j'ai dit, le deuxième point, c'était semeur sème dans les bons comme dans les endroits les plus difficiles. J'en ai déjà parlé. N'ayons pas peur de semer dans les endroits les plus difficiles. Notre rôle, de toute façon, nous ne faisons pas les miracles. C'est Dieu qui fait les miracles. Donc nous semons. Dieu s'occupera des miracles. C'est plus notre job après. Le troisième point, c'est que le semeur, vous avez remarqué, il sème seul. Le semeur n'est pas parti avec sa bande semée. Il est parti seul. Et j'aimerais vous dire une chose, c'est que nous sommes tous responsables de notre semence. Et Dieu nous demandera quand nous montrons là-haut. Il dit, qu'est-ce que tu as fait avec ta semence? Tu l'as laissée pourrir dans ton sac? Périmée? Date de péremption, ça y est, c'est dépassé depuis des années. Ta semence, qu'est-ce que tu en as fait? Je dis, Seigneur, effectivement, je n'ai pas beaucoup semé. Moi, je n'ai pas envie d'arriver à cette confrontation avec Dieu. Je n'aimerais pas me sentir mal à l'aise comme ça devant lui. Je dis, Seigneur, j'ai été ton témoin. J'ai envie que Dieu me dise, entre, bon et fidèle serviteur. Entre. Toi qui as servi, toi qui as semé le long du chemin, toi qui as semé partout où tu étais, toi qui as semé. Toi qui as pris la responsabilité de la génération pour laquelle tu vivais. Je suis responsable pour ma génération. Mais nous sommes tous responsables pour le temps dans lequel nous vivons. Tous. Et moi, je me réjouis si André va chanter dans les choses peut-être plus anciennes. Mais il y a besoin. Il y a besoin. Dans toutes les générations, il y a besoin. Je me souviens quand j'étais en Angleterre, il faisait ça à l'église. Il faisait tea dance. Il faisait le thé, donc pour les Anglais, thé dansant. Et des personnes, je dirais d'un certain âge, venaient à l'église et ils transformaient l'église. Et ils mettaient donc le thé à disposition et les papis mamies venaient en couple. Et ils dansaient l'après-midi comme ça et ils invitaient de leurs amis. Les amis non chrétiens entraient dans l'église, on leur servait un thé et puis ils dansaient. Ah, André, là, il revit, il dit, on va lancer ça, là. Hein. Allez, t'es dansant. Mais pourquoi pas? Mais pourquoi pas? Enlevons nos œillères. Commençons à voir plus large. Il y a des gens qui, chaque jour, partent pour l'enfer. Chaque jour, des gens meurent. Chaque jour, chaque seconde qui passe, une personne part. Et quel est le pourcentage? Avec Dieu ou avec le diable? Chaque seconde. Waouh. Chaque seconde. Le semeur sème seul. Prends la responsabilité sur toi de dire, je veux être ce semeur. Je le veux. Je ne veux pas compter sur les autres. Mais Dieu m'a donné. Dieu m'a changé. Alors je vois pas pourquoi il ne pourrait pas changer les autres. Et je veux aussi en parler de ça. Je veux être ce témoin. Et le dernier point, je vais m'arrêter là, c'est que le semeur vit par le fruit de sa semence. Si ce semeur-là ne sort pas pour semer, il n'aura rien à manger et il mourra de faim. Il mourra de faim. Vous savez ce que Jésus dira? Ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Ma nourriture, c'est ça. C'est ça ma nourriture, c'est de faire la volonté de mon Père. Et sa volonté, c'est que nous soyons des témoins. Et je vous assure que si nous faisons ça de notre nourriture principale, Il saura nous combler matériellement, financièrement, au niveau de la famille, émotionnellement et tout ce que vous voudrez. Je vous assure. Parce que qui mieux que lui peut s'occuper de nous, honnêtement. Lui qui nous a créés, lui qui connaît tout, lui qui connaît le nombre de cheveux qu'on a sur la tête, le nombre de poils qu'on a sur les jambes. Il connaît toutes choses. Honnêtement, je préfère me confier en ce Dieu-là plutôt que de me confier en mon Dieu personnel, celui au Dieu Matthieu. Pourquoi? Parce que quand nous ne nous confions pas à Dieu, nous pensons que nous sommes Dieu. C'est ça le problème. Dieu. Si on ne se confie pas à Dieu, c'est-à-dire qu'on pense qu'on est mieux que Dieu. On est meilleur que lui. Je dis une chose, à partir du moment où j'ai choisi de suivre Dieu, de faire de Dieu ma priorité, Dieu m'a donné bien plus que même je pouvais espérer. Bien plus. Parce que c'est un Dieu d'abondance et de richesse. Il saura nous donner en abondance. Amen. Le semeur vit par le fruit de sa semence. Vivons pour voir des fruits. Vivons pour voir le royaume de Dieu à se grandir. Vivons pour voir le royaume de Dieu, je dirais, être manifesté. Vivons pour cela. Ça doit être notre nourriture principale. Je veux voir le royaume de Dieu grandir. Je veux voir des âmes se tourner vers Christ. Je veux le voir. Je veux voir des malades être guéris. Je veux voir des gens être délivrés. Pourquoi? Parce que le plus grand miracle qu'un homme puisse vivre ici-bas sur terre, c'est de connaître Jésus-Christ. Et je veux cela. Je veux être ce témoin-là. Je veux le voir de mes propres yeux. Je veux être l'outil de Dieu personnel. Et croyez-moi, ce n'est pas une question de capacité. Parce que Dieu aime bien prendre des incapables pour en faire des capables. Et je vais vous dire que Dieu ne cherche pas des personnes qui sont qualifiées, mais il qualifie ceux qu'il appelle. Il ne cherche pas des gens avec un grand potentiel, avec des grandes capacités. Il cherche des gens humbles qui disent, Seigneur, tel que je suis, je viens à toi. Utilise-moi. Et croyez-moi, Dieu vous saura vous utiliser. Votre faiblesse, il va la changer en force. Votre timidité, il va la balayer. Il va vous donner cette hardiesse du Saint-Esprit, cette force du Saint-Esprit, cette puissance du Saint-Esprit. Mais est-ce que tu es capable? Est-ce que tu désires changer? Vous savez, il y a des gens qui ont peur du changement. Et en France, on a peur du changement. Regardez les infos. Tous les jours, il y a des manifs. On ne veut pas de changement. On est français. Croyez-moi, Dieu n'est pas français. Je suis content qu'il ne soit pas français. Mais il aime la France. Il aime la France. Dernièrement, on a eu des gens d'Afrique du Sud qui sont venus prier à l'église. C'est des gens, ils ont 16 équipes de 7 personnes qui traversent le pays en France pour prier pour la France. Parce que eux, ils avaient reçu cet héritage des Huguenots à l'époque. Ils ont été évangélisés par les Français. Et Dieu nous a appelés à revenir pour stimuler les Français à saisir leur héritage spirituel. Parce que des gens ont semé sur cette terre. Et nous sommes le fruit d'une semence. J'aimerais te le dire, tu es le fruit d'une semence. Tu n'es pas arrivé là par hasard. C'est parce que des gens ont semé, des gens ont prié pour toi. Des gens t'ont porté, t'ont soutenu de la prière jusqu'à ce que tu découvres qui est réellement Jésus-Christ. Parce qu'on ne vient pas à connaître Jésus-Christ tout simplement en se levant le bon matin et dire ça y est, je connais Jésus. Non, c'est parce que des gens t'ont porté dans la prière. Des gens t'ont soutenu, des gens t'ont aimé. Des gens t'ont présenté devant Dieu.